Merci.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un massacre perpétré il y a 20 ans, en septembre 1997, au cœur de la décennie noire en Algérie, à Bentala, dans la banlieue d'Alger. La guerre d'indépendance algérienne fut longtemps en France une guerre sans nom. La guerre civile, qui s'est déroulée en Algérie de 1991 à 2002, elle, est une guerre sans visage, dans un huis clos qui plonge ce pays dans l'horreur, la crainte et la suspicion. En 1997, l'année du massacre, ce conflit a déjà causé la mort de plus de 100 000 personnes. Un engrenage de la violence qui a pris sa source en décembre 1991, au lendemain de l'arrêt du processus démocratique qui aurait mis au pouvoir le Front islamique du Salut. À partir de cette date, islamistes, groupes armés religieux et armées régulières tentent de gagner la guerre des territoires et des esprits par la terreur. L'État algérien a toujours gardé la main sur le récit officiel de cette guerre, interdisant souvent les visas aux journalistes étrangers et limitant les accès de ceux qui arrivaient à rejoindre le pays. Raconter ces années de lutte, c'est donc comme se perdre dans un labyrinthe où la manipulation dirige l'information. Aujourd'hui encore, l'histoire du massacre de Bentala comporte de nombreuses zones d'ombre sur lesquelles le gouvernement algérien refuse toujours de lever le voile. 20 ans après, nous allons retourner sur le lieu du drame, sur l'histoire de ce village de Bentala, qui, comme des centaines d'autres, a vu s'immiscer la guerre civile dans son quotidien, jusqu'à en devenir l'un des théâtres les plus sanglants. Pour préparer cette émission, nous nous sommes basés notamment sur l'ouvrage intitulé « Qui a tué Bentala » de Nesrullah Yous. En seconde partie, nous recevrons le journaliste français Jean-Baptiste Rivoire, co-auteur avec Younis Agoun d'un livre référence sur l'histoire de cette décennie noire en Algérie, intitulé « France-Algérie, crimes et mensonges d'État » et auteur d'un documentaire titré « Bentala, autopsie d'un massacre » réalisé en 1999 pour l'agence de presse Kappa et d'où vous entendrez des extraits durant le récit. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 23 septembre 1997, quelques heures après le massacre. Après avoir été transportés à l'école par les civils et par les ambulances, la plupart des blessés ont été redirigés vers l'hôpital Zmili del Arash, qui est à peine à 6 km de Bentala. À l'intérieur de l'établissement, il manque des lits, des civières, des soignants. Survivant parmi les vivants, Nesrullah Yous, un homme de 40 ans, est là, divaguant dans les couloirs à la recherche de ses proches. Sur l'une des civières, il reconnaît Ouria, qui est enceinte de 7 mois. Elle a eu la gorge presque tranchée. Là, Areski, blessé au bras, lui raconte avoir perdu ses deux enfants. Puis Randan, Amin, comme lui, ils ont survécu, mais combien ne sont pas revenus? Profitant de la relève des infirmiers et de l'inattention des policiers qui ont commencé à interroger les blessés, Nesrullah s'échappe de l'hôpital pour rejoindre Baraki, où par chance, sa femme et ses enfants étaient à l'abri. En sortant de l'établissement, il doit s'extirper de la marée humaine formée par les familles qui, devant les grilles fermées de l'hôpital, attendent la liste des noms des personnes sauvées. Dans cette foule, il y a quelques journalistes, dont le photographe de l'AFP, Hossine Zaourar, bloqué par l'armée qui refuse tout accès sur le lieu du massacre. Avec un collègue du journal El Watan, il a rejoint l'hôpital Zemrilli. C'est aux abords de ce lieu qu'il photographie une femme assise sur le sol, un voile sur sa chevelure, la tête tombante sur le mur, presque évanouie, criant de douleur. À côté de lui, un homme lui dit qu'elle a perdu ses 8 enfants. L'information se révélera fausse et vaudra au photographe les pires ennuis. Mais quoi qu'il en soit, cette photo, connue sous le titre de la Madone d'Alger, fait le tour du monde et devient l'une des images de cette décennie sanglante. Si son titre est maladroit, le cliché a tout de même le mérite de montrer comment la guerre civile a marqué les corps et les âmes de chaque Algérien. Derrière la douleur de cette femme, on perçoit la douleur des mères des enfants d'octobre 1988, de la veuve de Mohamed Boudiaf ou encore des familles meurtries lors des massacres de Raïs et de Beni Messous qui se sont déroulés quelques semaines avant celui de Bentala. Des cris et des larmes, oui, c'est la bande-son de l'Algérie depuis des années. « À quelques kilomètres de là, un second journaliste de l'AFP réussit à se fondre au sein de processions des familles des victimes de la barbarie de Bentala qui se dirige vers le cimetière de Sidi Redzin, où des bulldozers s'activent pour creuser et recouvrir au plus vite les cercueils. Selon les autorités, le bilan du massacre s'élève à 85 victimes. Sauf que, sur place, le journaliste en compte le double. Le lendemain, quand d'autres reporters viendront voir ces sépultures, ils seront tout aussi surpris face à l'étendue du massacre. Des tombes de fortune alignées l'une après l'autre, ou parfois un même nom, se répètent jusqu'à 18 fois, oui, 18 vies d'une même famille, anéanties en une nuit. Dans ce cimetière, devant ces caméras étrangères, certains des habitants s'insurgent contre le bilan officiel, d'autres racontent ce qu'ils ont vu.
Nous habitons à côté d'une forêt et d'un ravin. Nous n'avons que le bon Dieu avec nous. Un tueur a pris son temps pour égorger. Il criait à son copain. Écoute, égorge doucement. Cette maison n'a pas d'armes. T'inquiète pas, l'armée n'est pas venue. Il égorgeait et il jetait les corps du troisième étage. Ensuite, les terroristes ont brûlé les cadavres. Il y en a un, après l'avoir égorgé, ils ont placé une bombe sous son corps.
Nous n'avons que des fusils de chasse. Eux, ils ont des kalachnikovs, des bombes, ils ont tout.
Ce 24 septembre, Nesrullah Yousse retourne pour la première fois dans le quartier d'Aïl Djilali. Marchant à l'aide d'une béquille, il découvre un quartier silencieux où n'a pas encore effacé les stigmates du chaos. Devant chez lui, il remarque un tas d'habits amoncelés et des mares de sang séchées. Dans la rue, il rencontre des survivants. Alors ensemble, ils énumèrent le nom des absents et se remémorent leurs souvenirs de cette nuit. Très vite, les larmes laissent la place au doute et à l'incompréhension. Mais qui étaient ces assassins? Comment ont-ils pu dynamiter, égorger pendant des heures sans que les forces militaires n'interviennent alors que l'alerte avait été donnée? Comment Bentala est-il devenu un village martyr de la guerre civile? Bentala est un petit hameau agricole situé à 16 km de la périphérie d'Alger. Pour le rejoindre, on prend la route départementale de Baraki à Sidi Moussa. Le village se situe à droite. À l'ouest de ce village se trouve le quartier Aïl Djelali. C'est ici, dans ces lotissements entourés par des vergers, que Nesrullah a commencé à bâtir sa maison en 1988. Cette année-là, les jeunes Algériens retrouvaient les aspirations de révolte qui ont fait l'histoire de leur nation. Nés au lendemain de l'indépendance, ils ont été les premiers touchés par la crise économique qui s'est accentuée après la chute du cours de pétrole en 1984. Sans emploi, sans logement, ne pouvant acheter des produits de première nécessité qui se faisaient de plus en plus rares, ils n'ont eu que la rue pour crier leur colère. Ainsi, à partir du 4 octobre 1988, Alger s'embrase. Malgré la mise en place d'un état de siège et d'une répression sanglante, le mouvement d'octobre 88 réussit à ébranler durablement les hommes du FLN qui, après avoir gagné la guerre contre la France, ont refusé de partager le pouvoir, poussant année après année un peu plus le pays vers la dictature. Face à l'ardeur de son peuple, le FLN accepte tout de même de lâcher du lest. En février 1989, les Algériens sont appelés aux urnes pour valider le projet de révision constitutionnelle proposé par le gouvernement qui acte notamment le multipartisme, le droit de créer des associations à caractère politique et qui garantit les libertés individuelles et collectives. Et c'est ainsi qu'on voit surgir de nouvelles forces politiques, comme le FFS, le Front des Forces Socialistes qui sort de la clandestinité, et surtout, le FIS, le Front Islamique du Salut qui est fondé en février 1989. Pour la première fois, un pays arabe et musulman autorise un parti qui a pour fondement l'islam et pour but annoncé l'instauration d'une république islamique. Déjà maître de la rue lors des événements d'octobre 88, le FIS devient très vite le maître des mots lors des prêches du vendredi et lors du meeting où se rassemblent de plus en plus de personnes.
Pour beaucoup, le djihad, c'est le grand méchant loup. Le djihad est une obligation. Il y a plusieurs devoirs et le djihad en est un. Notre prophète, que le salut de Dieu soit sur lui, a dit « Mieux vaut rester une heure dans mes rangs que de se prosterner 60 années devant moi. » Auprès de Dieu, le djihad est un devoir très important et ça dans tout le monde musulman.
Le 12 juin 1990, lors des élections municipales et régionales, le fils remporte la première victoire, sa première victoire, et le FLN enregistre sa première bataille. En quelques mois, le Front islamique du Salut est devenu la première force du pays. Au micro de Mathieu Aron de France Inter, ses partisans évoquent l'avenir de l'État islamique algérien.
On va appliquer notre religion, c'est le plus important ici. On va appliquer le Coran et ce qu'il a dit Mohamed, le prophète. C'est ça l'essentiel pour nous. Parce qu'on est des musulmans, on doit faire ça. Qu'est-ce que ça va changer pour le chômage? Pour le chômage, on va créer des postes. Il y a des femmes qui travaillent dans des endroits où les hommes doivent être. Eh bien, on va équilibrer entre la femme et l'homme. Pour avoir beaucoup de postes pour les jeunes chômeurs. La femme pourra faire tous les travaux, il y aura des travaux qu'elle ne pourra plus faire. Elle pourra bien rester chez elle, élever ses enfants, faire du ménage. C'est l'essentiel pour elle. Éduquer ses enfants avec sa religion, c'est le plus important. Vous prenez le pouvoir, il y a des gens qui vont avoir peur. Pourquoi ils vont avoir peur? Pour quelle raison ils vont avoir peur? Ils vont avoir peur de la religion? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Algériens... Ils ont peur de la religion.
Acculé, le FLN annonce des réformes économiques, sociales, mais aussi électorales, avec un redécoupage des circonscriptions qui doit handicaper le fils lors des prochaines élections législatives. Face à cette annonce, le Front islamique du Salut joue la rue contre l'État. Après un appel à la grève générale, il pousse ses militants à l'émeute. Et c'est ainsi que pendant l'été 1991, Alger devient le théâtre de combats entre partisans du fils et membres des forces de l'ordre. Face aux violences, l'état de siège est décrété, le couvre-feu établi. Le 5 juin, le président annonce le report des élections législatives. Le 30, les deux principaux dirigeants du fils sont arrêtés. Le pouvoir pense ainsi gagner du temps, mais il se trompe. Les islamistes ont fait de la crise économique et sociale un terreau fertile pour leurs idées. Le 23 décembre 1991, le jour du vote au premier tour pour les législatives, le parti islamiste frôle la majorité absolue dès le premier tour. Et partout en Algérie, ses partisans célèbrent la victoire. Le peuple a parlé et alors, le FLN entend garder le pouvoir. Le 11 janvier 1992, le président Chadli Ben Jadid présente sa démission. Il est remplacé par un haut conseil de sécurité qui annonce dès le lendemain la suspension du processus électoral. À Baraki, commune où se situe Bentala, comme dans de nombreux quartiers où le fils est arrivé en tête, la révolte devient alors quotidienne. Le jour, les islamistes manifestent dans les rues, la nuit, ils tapent sur des casseroles du haut de leurs balcons. À la fin du mois de janvier 92, les arrestations d'islamistes se multiplient, les heurts violents font leur premier mort. L'état d'urgence est proclamé, le fils est dissous dès le mois de mars. Partisan du Front des Forces Socialistes, Nesrullah était favorable à la troisième voie, ni celle des militaires, ni celle des barbus, non, la démocratie, tout simplement, enfin si je puis dire. En mai 92, il emménage dans sa maison dans le quartier d'Aïl el-Jilali de Bentala avec sa femme et ses deux enfants. Baraki était la ville de ses liens familiaux, sociaux et politiques. Bentala est pour lui celle de l'avenir. Mais c'est bien d'ici qu'il voit son pays sombrer un peu plus dans l'horreur quand le 29 juin 1992, les journaux annoncent cette terrible nouvelle.
Madame, Monsieur, bon après-midi à tous. Ce flash spécial d'information sur Antenne 2 pour vous annoncer l'assassinat du président algérien Mohamed Boudiaf. Il a été assassiné donc en fin de matinée à 11h30 heure de Paris alors qu'il inaugurait la maison des arts et de la culture d'Annaba. Ça se passe dans l'Est algérien. Le haut comité d'État qui assure la présidence collective actuellement en Algérie a annoncé dans un communiqué que le président était victime d'un acte criminel perpétré durant son discours. Donc la télévision nationale algérienne a commencé à diffuser des versets du Coran en mémoire aux défunts à l'annonce de la mort du chef d'État. Le pouvoir qui était en Algérie depuis la démission du président Chadli Ben Jadid en janvier dernier, en pleine vague d'agitation intégriste, a décrété un deuil national de 7 jours.
Après l'annonce de l'arrêt du processus démocratique, le FLN avait fait appel à cette figure historique pour prendre la tête du pays, relancer les réformes économiques et démocratiques. il est assassiné moins de 10 mois après son arrivée. À la suite de cet attentat, une répression féroce et aveugle s'abat, notamment dans les quartiers chauds, ceux qui ont voté majoritairement pour le fils. À Bentallah, la salle de prière est détruite. L'imam est arrêté comme ses jeunes partisans envoyés dans des camps de prisonniers où la torture est quotidienne. Face à la répression toujours plus forte, nombre d'islamistes font le choix de la clandestinité et de la guérilla contre les forces de sécurité et contre les fonctionnaires. Au début de l'année 93, Nesrullah remarque des tracts placardés dans les rues où les groupes armés annoncent leurs exploits. Ils s'appellent GIA, Groupe Islamique Armé, ou AIS, Armée Islamique du Salut. Ils seront les bras armés du camp islamique, le glaive et le Coran. Peu à peu, l'Algérie se coupe en deux, entre les territoires romains des militaires et les enclaves où les islamistes ont fixé leur base et où ils étendent leur emprise. Deux Algéries vivent alors en parallèle et se combattent. À Bentallah, des premiers groupes islamistes s'installent dans les vergers dès l'année 1993. Ils y construisent des casemates et investissent le Grand Oued. À l'intérieur du village, ils interdisent de fumer, obligent les femmes à porter le hijab et notent le nom des absents au prêche du vendredi. La sensation d'abandon se fait encore plus forte quand les gens du village apprennent que la ligne des transports de bus entre Baraki et Bentallah est coupée. Alors, chaque matin, tout le village, femmes, enfants, doit marcher pour aller travailler, aller à l'école, quitter ce village où la peur devient quotidienne. Les mois passent, les journaux relatent chaque jour des attaques, des attentats, des assassinats. À partir de l'année 94, le GIA s'attaque aux civils, notamment à Bentallah, comme le raconte cet habitant dans le documentaire Algérie 1988-2000, autopsie d'une tragédie, de Cyril Labat et Malik Ait Aoudia, produit par Farz et Balise.
Tout le monde les voyait à Bentallah. Ceux qui vous disent le contraire mentent. L'État, c'était eux. Les gendarmes ne pouvaient même pas rentrer ici. Quand les terroristes arrivaient, tout le monde rentrait à la maison. Ici, ils imposaient le couvre-feu à 18h. Le matin, quand tu sors, tu trouves une tête humaine posée sur la route. Et tu crois qu'avec ça, tu vas t'amuser à sortir après 18h ? Celui qui n'a pas vécu ça pense que ce n'est rien. Mais celui qui l'a vécu...
C'est cette année-là également que Nesrullah voit son premier cadavre. C'était une jeune femme dont le corps était jeté à l'entrée du quartier. À plusieurs reprises, cachée derrière ses persiennes, il assiste à des exécutions sommaires, des assassinats. Il faudra attendre plusieurs mois, et notamment l'approche de la nouvelle élection présidentielle, pour que l'armée réinvestisse de nouveau ces territoires abandonnés. À l'aide d'hélicoptères, les militaires traquent et pilonnent les groupes armés et les poussent un peu plus vers la clandestinité. En 1996, après la réélection de Lyamin Zeroual, ce sont aux milices de patriotes que l'État fait appel. Nesrullah, lui, a quitté l'entreprise de construction dans laquelle il travaillait. Début 1997, il a ouvert un magasin dans sa maison de Bentallah. Il y vend des matériaux de construction et un peu d'alimentation. Des années de plomb et de sang semblent alors s'éloigner. Mais de nouveau, on entend des cris d'enfants dans les rues, des gens reviennent cultiver leur jardin. De l'angoisse passée, presque oubliée, il ne reste que des traces. Les grilles installées aux fenêtres, les portes blindées, les murs des jardins toujours plus hauts. Mais la calmie ne dure qu'un temps. En juillet 1997, dans les journaux, pas loin de 16 massacres attribués à des groupes armés sont recensés. Tous ont lieu dans le Grand Alger, comme Bentallah. Dans la nuit du 28 août au 29 août, Nesrullah est réveillé par des tirs lointains et le bruit d'un hélicoptère. Le lendemain, au réveil, on apprend qu'à 10 km de là, à Raïs, un groupe de plusieurs dizaines d'hommes habillés en tenue afghane a profité d'un mariage dans le village pour assassiner plus de 300 personnes. Moins de 10 jours plus tard, c'est à Sidi Youssef, dans le quartier de Beni Messous, que 87 autres perdent la vie égorgés par des groupes armés. Sur France Inter, une femme témoigne de cette nuit d'horreur et de l'angoisse permanente.
Il était 10h moins le quart quand nous avons entendu des cris. C'est les voisins qui étaient affolés et qui commençaient à frapper avec des casseroles et à siffler. Donc on a entendu aussi des coups de feu, on ne pouvait pas sortir. C'était l'affolement, quoi. les gens qui ont été égorgés, c'était pas loin de chez nous, 50 mètres. On a passé une nuit blanche, c'est-à-dire que nous n'avons pas dormi, il fallait être debout parce qu'on avait peur d'être égorgés aussi à notre tour. J'étais qu'avec mon mari à la maison et mon mari m'a dit, écoute, de toute manière, on va pas les laisser nous tuer. Je te tuerai, je me tuerai par la suite, mais on va pas les laisser nous tuer, surtout pas par eux, quoi.
En cet été 1997, alors qu'on pensait la paix de nouveau accessible avec la libération de plusieurs leaders du fils, des assassins sèment de nouveau la mort. Après Raïs, Sidi Youssef, c'est Bentala qui sera bientôt frappé.
الحال وما زال فيه لمال ما نبكي سالف مكان لأنه أحمد يار أوطان ما نقول ويلي على زمان لا حسرة اللي
Bentala. Nesroula Yous habite dans le quartier d'Aïl El Djilali, situé à l'ouest de la commune, près des vergers. Il y vit maintenant depuis 5 ans. Après le massacre de Raïs, sa femme et ses 3 enfants sont partis vivre dans la commune voisine, à Barakki. Le soir du 22, c'est une soirée presque comme les autres. Nesroula est attablé devant son magasin avec des amis, il joue au domino, la chaleur est agréable, l'ambiance au beau fixe. Il remarque juste une étrange patrouille militaire. Une heure plus tard, c'est la garde communale qui semble inquiète. Elle marche vite, fébrilement. Quelques minutes après son passage, les joueurs entendent des premières rafales. Étrange. Chacun se salue et rentre chez soi. Nesroula range ses marchandises et verrouille son rideau métallique, puis rejoint sa terrasse où ses voisins l'attendent. Depuis plusieurs semaines, ils ont pris l'habitude, ses voisins, de parler comme pour rattraper le temps perdu et toutes ces discussions qu'on leur a volées au début de la décennie. Vers 23h, Nesroula part se coucher et il s'endort avec le bruit du moteur d'un hélicoptère qui sillonne le ciel. Soudain, une série d'explosions déchire la nuit. Nesroula se lève et monte à la terrasse. Au loin, des cris, puis le bruit strident de la sirène d'alarme du village. Sur la terrasse, les femmes et les enfants se recroquevillent dans un coin alors que les hommes se postent à des endroits stratégiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Fouad, qui habite à quelques maisons de Nesroula, racontera quelques temps plus tard à une journaliste de Channel 4 l'arrivée et la tenue de ces groupes.
Même nous, on était encerclés dans ce quartier complet. Et ben, ils ont commencé à minuit, en train d'égorger les garçons, les femmes, les vieux.
Et les terroristes, comment ils sont habillés?
Ils sont habillés Benjam, Rachaba. Vous connaissez Rachaba? ici, mm-hmm. des jeans mm-hmm. et des trainings, mm-hmm. baskets blanches. Et cherche. Ils font le cherche.
À quelle couleur, le cherche?
Noir. Bon, les barbes et tout. Ils ont des fusils de chasse, de canons. Ils ont les Kalachnikov.
Du haut de la terrasse, Nesrullah voit fuir des gens dans les ruelles, criant « Ils attaquent, ils égorgent tout le monde !» Malgré la panique, il ouvre sa porte à certaines personnes en fuite qui lui demandent de l'aide. Les gens entendent de se calmer, mais les cris et les tirs se rapprochent. Combien sont-ils ? 20 ? 40 ? 80 ? Tous semblent venir des vergers. Penchant un instant la tête vers la rue, Nesrullah aperçoit alors une famille prise au piège. Pourchassée d'un côté, elle est bloquée par un autre groupe qui l'attend au coin d'une rue. Arrêtés, tous ces gens sont amenés dans l'une des maisons. On entend des sanglots, des gémissements, et puis le râle d'une personne qu'on égorge. Mais que fait l'armée? La caserne de Baraki se trouve à moins de 4 kilomètres, et le poste militaire de Saïd Gassem à 1,5 km. La sirène a été déclenchée, les explosions ont été sans doute entendues, et pourtant, aucun militaire n'intervient. Vers minuit, sur le grand boulevard, de nombreux témoins voient s'allumer des phares. Nesrullah reconnaît les blindés de l'armée, les BTR. Sur la terrasse, l'espoir revient. Les femmes s'exclament, les militaires arrivent. En réalité, les BTR se positionnent à l'entrée du quartier et en bloquent l'accès, mais ils n'interviennent pas.
Ils égorgeaient les enfants et ils les jetaient là où vous voyez les déchets. On entendait nos enfants hurler.
Ils s'acharnaient. On entendait juste le bruit de la hache sur la dalle. Et quand ils sont repartis, ils ont mis le feu.
Ils lançaient des grenades, des bombes, et ceux qui n'égorgeaient pas, ils les capturaient.
Pendant des heures, les habitants d'Aïl el-Jilali sont bloqués dans un huis clos avec un groupe armé qui pourchasse, égorge et assassine. Quand la maison de Nesrullah est repérée, ils tentent de les repousser à l'aide de briques et de cocktails Molotov. Mais rien n'y fait, le flux d'assaillants se fait de plus en plus fort. Des balles sifflent, certains sont touchés. Leur seule chance est de fuir avant qu'ils réussissent à ouvrir une brèche à l'aide d'explosifs. Les habitants qui s'étaient rassemblés sur la terrasse descendent alors au premier étage, où une fenêtre donne accès à un jardin qui lui semble à l'abri. Alors, un par un, ils passent, rejoignent ce jardin et s'enfuient, espérant qu'une nouvelle porte s'ouvrira. Salima, une vieille femme, n'a plus la force de fuir. La mort, elle l'a côtoyée durant des années. Ce soir-là, elle l'a attendue, calmement. Nesrullah, lui, poursuit sa fuite. Pourchassé, apeuré, blessé, il passe de maison en maison. Il doit sa vie à un voisin qui l'accueille alors que toute sa famille vient d'être assassinée. Vers 5 heures, après des heures de massacre, les assaillants quittent tranquillement le quartier par le sud. Les forces de sécurité se déploient, tout comme les ambulances, oui, mais après la bataille. La plupart des blessés et la plupart des corps sont amenés à l'école de la ville. Là, certains observent que des cercueils sont déjà entreposés. Quelques années plus tard, cet homme le confirmera devant la caméra de Jean-Baptiste Rivoire dans Bentala, autopsie d'un massacre pour l'agence de presse Kappa.
Ils nous ont emmenés faire les premiers soins à l'école, et ben on les a vus. Au petit matin, et ben on avait des cercueils prêts et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés avec sans leur nom, avec un X, comme quoi on ne le connaît pas.
À votre avis, pourquoi ?
C'est pas moi. Ils se sont dépêchés pour les enterrer. C'est pour ne pas déterminer le nombre de morts.
Nesrullah aussi les verra avant de rejoindre l'hôpital. Le lendemain du massacre, l'armée interdit l'accès à tous les journalistes. Selon le journal télévisé La Presse aux ordres du pouvoir, le bilan du massacre se limite à 85 morts, alors que certains en évoquent désormais plus de 400. Malgré la surveillance toujours forte des autorités sur les journalistes étrangers, certains arrivent à enregistrer la colère et le doute qui hante certains des survivants, notamment au sujet de la non-intervention de l'armée. Selon la version officielle, les islamistes auraient miné le quartier, bloquant ainsi toute possibilité d'intervention. Islamistes, voici nommés ceux qui, selon le gouvernement, auraient commis ce massacre. Dès le 26 septembre, un communiqué émanant du GIA qui revendique les horreurs commises cette nuit-là parvient à un journal londonien. Ce document est signé Antar Zouabri, émir national du GIA. Le 7 octobre, le pouvoir présente, même à la presse internationale, l'un des visages de ces assassins. Il s'agit d'une femme, oui, une femme de 36 ans, Nasera Oulam Khan, sœur de l'ancien émir du GIA pour Baraki, commune où se trouve le village de Bentala. Devant les journalistes, elle raconte la nuit tragique de Bentala, vue cette fois du côté des égorgeurs.
Une fois qu'ils avaient attaqué une maison avec des haches et tué les habitants, je devais récupérer l'or. Je devais aussi distinguer les maisons pour ne pas qu'ils attaquent celles des familles de terroristes.
Tu avais le visage caché ?
Non, mon visage n'était pas caché. On était par groupe. J'avais 40 terroristes avec moi.
Qui te les a fournis ?
Le chef.
Qui est ce chef ?
Le chef, c'était Lazraoui. Il est de Bentala. Tout le monde le connaît.
Dit-elle vrai ? Le GIA est-il le seul responsable et commanditaire de ce massacre ? Beaucoup de survivants, comme bon nombre de journalistes, en doutent et pointent le rôle trouble de l'armée dans ce massacre, ainsi que le contexte de l'événement. En effet, de nombreuses semaines avant le drame, le président Zerwal, ainsi que sa garde rapprochée, organisaient le retour dans le jeu politique des gens du fils. Un jour avant le massacre, le 21 septembre, un communiqué de l'émir national de l'AIS, le bras armé du fils, demandait, je cite, à toutes les compagnies combattantes d'arrêter les opérations de guerre et de décréter un cessez-le-feu unilatéral à partir du 1er octobre. Alors, ce massacre était-il une réponse de JIA opposée à la stratégie du fils et de l'AIS? Ou bien, s'agissait-il d'une action des chefs militaires dits « éradicateurs » opposés à toute négociation avec les islamistes qui auraient organisé le massacre ? Trois ans après les faits, Nesrou Layous vit en France. C'est de notre pays qu'il a rédigé son ouvrage, publié en 2000. Le 31 octobre, il est au micro de Stéphane Paoli sur France Inter et il demande enfin que le voile sur ses années noires soit levé.
C'est très dur parce que même en Algérie, il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas ce qui se passait réellement pendant des années dans la banlieue et qui refusent de le croire.
Vous croyez à la possibilité de ce que vous réclamez d'ailleurs, d'une enquête nationale sur le massacre et pourquoi pas un jour d'un tribunal international
pour... J'essaie de me battre pour faire justement la lumière et pour justement qu'il y ait le plus rapidement possible une enquête sur tout ce qui s'est passé pendant la décennie noire. On m'a demandé est-ce que je pouvais pardonner. Je ne pense pas que la population algérienne puisse pardonner ça. Je crois qu'il y a eu trop de barbarie, trop de... Et moi, personnellement, je veux savoir.
Cinq ans après cet entretien, le 15 août 2005, l'approbation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale souhaitée par le président Bouteflika est votée par une grande majorité lors d'un référendum. Cet accord politique débouche sur l'abandon de façon définitive des poursuites judiciaires contre les islamistes déposant les armes. L'article 45 stipule également qu'aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente. C'est le principe, la doctrine même de la politique dite de concorde civile en Algérie. Une méthode qui peut apparaître souhaitable et pragmatique, mais qui ensable les mémoires. C'est un déni de justice.
Searching.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le massacre de Bentala en Algérie en septembre 1997, au cœur de ce qu'on a appelé, fort justement d'ailleurs, les années noires en Algérie, la décennie noire. Notre invité, Jean-Baptiste Rivoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur avec Louis Sagoun d'un livre référence sur l'histoire de cette décennie dite noire en Algérie, France-Algérie, crimes et mensonges d'État, c'est le titre, et d'un documentaire titré lui, Bentala, autopsie d'un massacre, réalisé en 1999 pour l'agence de presse Kappa. Durant ce récit, nous sommes revenus sur le début de la guerre civile algérienne avec la montée en puissance du fils jusqu'à sa victoire confisquée lors du premier tour de l'élection législative en 1991. Quelle est la situation politique de l'Algérie avant les massacres, cette fois de 1997? Où en est-on 6 ans après cette confiscation de victoire?
Au niveau politique en 97,
ouais.
Eh ben, vous avez, en fait, depuis le coup d'État de 92, un clan dur de l'armée, vous les avez dit éradicateurs, c'est effectivement comme ça qu'ils s'appellent, un clan dur de l'armée pro-français qui refuse tout compromis politique en Algérie, qui refuse évidemment de perdre le pouvoir et de perdre ses avantages et de refuse de cesser de profiter de la corruption. Et ce clan dur de l'armée, en fait, est pas forcément univoque à la tête de l'État. Parfois, il y a à la tête de l'État algérien des gens qui disent qu'il faudrait quand même essayer de trouver un compromis politique parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et à chaque fois qu'un compromis politique s'esquisse, et c'est arrivé à plusieurs reprises dans cette décennie noire, ce clan dur de l'armée, tenu par les mêmes généraux qui sont restés en poste plus de 20 ans, les patrons de la sécurité militaire, vont tout faire pour jeter de l'huile sur le feu afin de torpiller toute possibilité de paix. Un premier exemple absolument majeur, vous avez en 94, après 2-3 ans de guerre, une situation où les chancelleries occidentales commencent à se dire bon, on soutient le régime coûte que coûte pour éviter les barbus, mais en même temps, ça va loin, il y a une guerre civile, il y a des arrestations, des disparus, des morts, des gens torturés dans les camps, et on ne sort pas de cette situation terrible, donc voilà, peut-être va-t-il falloir réfléchir à une possibilité de paix. Et fin 94, l'ensemble des mouvements politiques algériens, le Front des Forces Socialistes, les islamistes du fils, mais aussi le FLN, décident de se retrouver. Alors, les militaires ne veulent pas qu'ils se retrouvent en Algérie, c'est interdit de discuter de paix, donc ils vont se retrouver en Italie, à Rome, pour discuter. Alors, ils sont pas d'accord, entre le fils, le FFS et le FLN, autant vous dire, c'est un gouffre. Mais il y a là des gens qui ont à cœur l'intérêt du pays et qui se disent peut-être on peut essayer d'avancer ensemble. Le fils fait quelques compromis par rapport à la démocratie, etc. Et on finit par signer une espèce de pré-accord de paix en fin 94 qui va ulcérer les généraux restés à Alger, les rendre furieux et les inciter à faire des pressions terribles sur l'Occident pour que personne ne soutienne cette initiative de paix. Manque de bol, ça continue. En janvier 95, tous ces partis algériens signent un véritable accord de paix à Rome. La France, qui soutient les généraux, est très embarrassée, mais dans le monde entier, ça éveille pas mal d'espoir. Et vous avez notamment en France Alain Juppé, qui à l'époque est aux affaires étrangères, qui est assez favorable à un compromis en Algérie. Et vous avez aussi l'administration Clinton.
Ah, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Parce que c'est pas le précaré des Américains.
Non, mais il se trouve que les Américains sont dans un rapport à la religion qui est, on va dire, moins crispé que notre laïcité française, on va dire, pour faire court, et que Clinton tire le même enseignement qu'une partie des chancelleries occidentales en disant on peut pas, on peut réprimer la population à l'infini, mais enfin, au bout de 100 000 morts, il y a bien un moment donné, il faut trouver une solution, et les généraux sont vraiment arc-boutés dans un refus total de partager le pouvoir. Et donc voilà, vous avez un certain nombre de centres de puissance dans le monde qui disent bah oui, il faut au moins discuter, ça veut pas dire donner le pouvoir aux barbus, mais au moins discuter, trouver un compromis pour retourner vers une situation de paix et de stabilité. C'est un moment de grande panique pour les généraux d'Alger qui regardent de près ce qui se passe en France, parce que la France les soutient traditionnellement, et il y a là une actualité politique qui ne vous aura pas échappé, c'est qu'au printemps 95 en France, il y a une élection présidentielle. Et il se trouve que les généraux sont beaucoup plus proches d'un Pasqua, d'un Marchiani et donc d'un Balladur. C'est cette écurie-là qui a leur préférence, parce que Pasqua et Marchiani sont pour une politique très dure en Algérie, ils soutiennent l'armée algérienne, et vous avez de l'autre côté Chirac, qui est très très largué dans les sondages, qui a peu de chance. Donc les généraux algériens sont ravis. Donc Chirac, Juppé, qui veut un compromis en Algérie, sont très très loin dans les sondages. Seulement manque de bol juste avant l'élection présidentielle. Ça s'inverse. Juppé revient dans la course avec Chirac et il finit par être élu. Et là, on l'a pas su en France, mais ça a déclenché une panique absolument terrible dans l'état-major algérien et le clan dur de l'armée, parce que Juppé était pour un compromis politique. Et à ce moment-là, comme par hasard, une immense action terroriste a envahi Paris avec les attentats de l'été 95 dans le métro, dans le RER, qui a pris en otage le gouvernement Juppé, l'a tétanisé, a torpillé toute idée de compromis politique en Algérie. Plus personne n'osait parler de compromis politique ou questionner les militaires après cette campagne d'attentat attribuée officiellement au GIA. Et donc voilà, là c'est un des premiers cas où les généraux durs de l'armée ont terrorisé la France, par exemple, pour éviter tout compromis politique.
On retrouve quand même du côté des autorités algériennes ce postulat selon lequel elles sont le rempart aux barbus, comme vous dites, hein, aux islamistes. Mais on a vu ça avec Ben Ali en Tunisie, c'était la même chose, avec Moubarak en Égypte, notamment contre les frères musulmans qui avaient assassiné son prédécesseur. On pourrait peut-être un peu multiplier les exemples comme ça. C'est aussi le postulat des autorités algériennes, nous sommes un rempart.
C'est un discours de propagande. Hein. Enfin, vous savez, la crise algérienne des années 90, c'est simple. Hein. Manipulation, intoxication, désinformation. Ouais, c'est ça, c'est en triptyque. Permanence, ouais. Pendant ces 10 années, même les habitants qu'on interroge là-bas sont parfois complètement terrorisés. Vous avez des types qui se présentent comme des survivants d'un massacre, qui en fait sont des agents de la sécurité militaire et qui donc, habillés en civil, vont intoxiquer les caméras de télévision étrangères. On n'imagine pas ici, parce que voilà, parce qu'on est plus dans la guerre d'Algérie et parce que c'est une vieille mémoire, on n'imagine pas le niveau de terreur et d'intoxication qu'il y a pu y avoir. Donc oui, évidemment que le clan dur de l'armée a vendu au monde entier un discours disant « on est le rempart contre les monstres ». Le problème, c'est que des dirigeants d'un pays militaire qui font 200 000 morts en quelques années, 20 000 disparus et 1 million de déplacés avec les problèmes psy des générations derrière, voilà. Est-ce que c'est formidablement mieux? C'est ça la question.
Alors, chaque guerre civile comme ça a sa localité martyr, une ou plusieurs, hélas. Et donc, pour cette guerre en Algérie, cette guerre civile, c'est donc l'histoire de Bentala, l'un des personnages principaux de votre film, hein, Nesrullah Yousse, on en a beaucoup parlé pendant le récit. Je propose d'écouter ce qu'il vous raconte, précisément sur cette nuit d'horreur, cette nuit du massacre, notamment l'arrivée des militaires et leur non-intervention.
On a commencé à crier « les militaires arrivent », mais ça ne faisait rien pour les assaillants. On avait l'impression qu'ils s'en foutaient pas mal. Ils étaient déjà préparés à ce que les militaires n'interviennent pas. Et c'est là que Abdelkader a pris la parole et leur a dit, allez vers les militaires, nous on vous a rien fait.
Il a dit ça aux gens qui étaient sous la dalle.
Oui, oui, oui. Et là, c'est comme s'il avait pressé sur un bouton, c'était un flux d'insultes et de blasphèmes. Et je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas croire mes oreilles. Ils nous ont dit, on va vous envoyer chez votre Dieu. Ça c'est grave parce que tous les musulmans savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu et c'est le leur. Généralement, ceux qui blasphèment comme ça, ceux qui ne croient pas réellement en Dieu, c'est uniquement les militaires. Pas une seule minute, j'ai cru que c'était des islamistes.
C'est vraiment troublant. Hein. Qui se cache sous les habits des tueurs?
En tout cas, le diable se niche dans les détails. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, à l'époque, j'ai coordonné une petite équipe de confrères. On a travaillé plusieurs mois sur ce massacre de Bentala, avec l'aide de Thierry Tuillier, qui travaillait à l'époque à France 2, de Bruno Giraudon, de plusieurs personnes. On a vraiment travaillé énormément pour comprendre ce qui s'était passé. Et quand je dis le diable se niche dans les détails, deux, trois exemples. Vous avez évoqué une patrouille militaire qui arpente le village le soir du massacre, quelques heures avant le drame, puisque les tueries commencent à vers 23h. La patrouille militaire bien armée, gilet pare-balles, force spéciale de l'armée, débarque vers 19h, patrouille. Et dans l'extrait que vous avez donné, l'archive se continuait par un témoignage absolument clé d'un voisin de Nesrullah qui dit que les militaires sont passés devant eux en ricanant et leur ont dit « Ce soir, vous allez voir, vous allez déguster. Ce soir, ça va être votre fête. » Il est 19h, les tueurs arrivent à 23h. Comment se fait-il que les soldats des forces spéciales de l'armée sachent déjà que dans 4 heures, une centaine de tueurs vont débarquer et faire leur fête aux habitants de Bentala? Comment c'est possible? Deuxième exemple, plusieurs habitants ont repéré dans la nuit du massacre que des dizaines d'ambulances avaient été postées dans l'école du village à l'avance. Qui poste 10 ambulances à l'avance dans un village proche d'Alger, à deux pas des casernes? Troisième exemple invraisemblable. Comment se fait-il que des dizaines et des dizaines de cercueils étaient prêtes à l'avance la nuit du massacre, pareil, stockés dans l'école de Bentala? Qui peut amener des cercueils dans cet endroit archi-sécurisé? Encore un troisième exemple, vous avez évoqué les blindés des forces spéciales de l'armée, parce qu'il faut voir qu'on a dit à l'époque, Bernard-Henri Lévy l'a beaucoup dit, oui, l'armée avait peur de sortir dans la nuit, évidemment, l'armée algérienne en 97, ils sont terrorisés, c'est tous des débutants, bon, n'importe quoi, comme si c'était tous des appelés. Il y a des forces spéciales de l'armée algérienne qui obéissent aux ordres de la sécurité militaire, qui sont extrêmement aguerries, qui mènent un combat d'une violence terrible depuis 92 contre la population, et c'est ça, les BTR, les blindés de l'armée qui prennent position autour du quartier, et on dit, ils sont pas intervenus. Mais en fait, c'est pas vrai. Quand on regarde bien les témoignages, ils ont un rôle clé. Ils sont sortis de leur blindé, ces militaires, en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de se poster autour du quartier Ariel Gilali toute la nuit, entre 23h et 5h du matin. Et ils avaient un rôle très précis. Il y avait 4 blindés et les types étaient postés tout autour du théâtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut savoir que dans les villages autour, dans les quartiers autour, on a entendu les explosions, on les entendait d'Alger. Des gens ont accouru, des patriotes, y compris des policiers qui n'étaient pas au courant, qui disaient « mais enfin, on massacre la population ». Ils ont voulu débarquer. Ils ont été bloqués par ces soldats des forces spéciales qui leur ont dit « on a des ordres, vous ne devez pas passer, vous ne devez pas pénétrer dans ce quartier ». Et à l'inverse, des habitants en train de se faire massacrer ont essayé de fuir le quartier, se sont heurtés à ces mêmes barrages militaires, les mêmes, qui leur ont dit « on a des ordres, on peut pas vous laisser sortir ». Et des habitants leur ont dit « mais au moins donnez-moi votre Kalachnikov, on va se défendre, ils sont en train de tuer ma famille ». Non, j'ai des ordres, vous ne sortez pas. Donc personne ne rentre pour aider les victimes, et parmi les victimes, personne ne sort. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle sécuriser un théâtre de massacre. C'est absolument terrible. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps en écoutant les archives officielles algériennes qui nous font entendre telle personne qui aurait participé aux assassins. Enfin, de toute façon, c'est manip et compagnie. Les journalistes ne peuvent pas travailler en Algérie dans cette situation et à cette époque. J'en sais quelque chose. Il faut regarder l'organisation de ce massacre. Il est invraisemblable que des blindés de l'armée algérienne se soient positionnés autour du massacre pendant toute la nuit et aient bloqué toute personne qui venait essayer d'aider les victimes. C'est invraisemblable.
Jean-Baptiste Rivoire, alors c'est la question qui est générée par ça, c'est qu'à de le dire. À qui profite le crime? Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Est-ce l'armée? Le gouvernement aurait décidé de laisser se perpétrer un massacre pour montrer à la population que les monstres, ce sont les autres, et que ce pouvoir-là doit garder le pouvoir, c'est ça?
Alors, écoutez,
enfin, ça peut être ça.
C'est pas aux journalistes de décider la vérité. Bien évidemment, un crime de cette ampleur, avec 400 morts en 4 heures, des enfants pris par les pieds et projetés contre des murs pendant des heures, je veux dire, il y a un moment donné, ça s'appelle la justice. S'il n'y en a pas en Algérie, ça s'appelle la justice internationale. C'est pas à nous, les journalistes, de décerner les bons points. Cela dit, moi, après toute cette année d'enquête, mon interprétation personnelle, c'est que c'est une opération de guerre contre-insurrectionnelle menée par le clan dur du régime pour terroriser des populations de ce qu'on appelait la ceinture verte d'Alger, qui était au fond rebelle à ce régime depuis des années et qui dérangeait les autorités. Mon analyse est de dire qu'il y avait deux objectifs pour le clan dur de l'armée. Un objectif immédiat qui est de la guerre contre-insurrectionnelle classique. Alors on sait plus ce que c'est parce qu'on l'a fait nous, hein, on a fait ça en Algérie entre 54 et 62. C'est-à-dire qu'on se déguisait en maquis du FLN pour aller massacrer un village pour discréditer le FLN. Donc
on sait
ce que c'est, on l'a fait les Français. Hein, je veux dire, donc un des objectifs majeurs effectivement du clan dur de l'armée qui est embêté par cette banlieue d'Alger, de cette ceinture verte qui a voté extrêmement massivement pour le FIS en 91 et 92, parfois à 90%. Pareil à Médéa chez les moines de Tibérine, c'est le même problème. La population à l'époque dans ces quartiers pauvres ne voit d'espoir que dans une alternance du régime et dans un départ des militaires. Et les militaires, donc, à partir du moment où ils interrompent le processus électoral, se payent des populations furieuses, des jeunes hostiles, parfois qui prennent les armes ou qui font péter des voitures au cœur d'Alger. Donc il faut comprendre que Bentala, c'est vraiment, c'est une banlieue dure, une banlieue très 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 pauvre et une banlieue très islamiste. Et donc, comment voulez-vous convaincre ces gens qu'il faut soutenir l'armée? C'est impossible. Ils sont dans une colère folle que leur vote n'ait pas été entendu. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On massacre ces populations et quand il y a des survivants, on leur distribue des armes le lendemain pour leur dire, vous avez vu les barbus hein, que vous soutenez comme ils sont méchants. Donc maintenant, il faut soutenir le régime. Donc c'est de la guerre contre-insurrectionnelle, c'est connu. Donc ça, c'est un objectif à court terme. Il y en a un autre beaucoup plus important qu'il faut mesurer, c'est qu'en fait, Bentala, il faut comprendre le contexte de l'été 97. C'est clé. Il n'y a pas, comme vous disiez en Algérie, un gouvernement comme nous. On a un gouvernement qui aurait le pouvoir avec Édouard Philippe. On est dans autre chose. On est dans un clan dur de l'armée avec les patrons de la sécurité militaire qui, au fond, tiennent le système en accord avec les généraux et se partagent l'argent du pétrole et de la corruption. Et puis, vous avez parfois... Il faut mettre en avant quelqu'un d'un peu plus présentable. Bon, quand on est Pinochet, on n'arrive pas à la télé avec sa casquette de Pinochet, etc. Donc on a mis Boudiaf en 92 parce que c'était un opposant historique légitime, qui n'avait pas de casquette, il était civil. Et puis comme il a voulu lutter contre la corruption, on a fini par l'assassiner. Et puis dans les années 96, on a laissé un général, pourtant un des leurs, mais enfin qui s'appelait Zerwal, qui était un petit peu plus pour un compromis politique. On l'a laissé prendre une petite part du pouvoir. Et Zerwal a mené des initiatives absolument horribles pour le clan dur de l'armée. C'est qu'il a commencé à parler avec les gens du FIS en prison, les dirigeants du FIS, et il a même à l'été 97, en août, libéré Abbassi Madani, qui est le principal patron du FIS. Et ça, on le sait très bien, parce que le clan dur de l'armée réagit à l'époque via El Watan. Ils hurlent, ils sont fous furieux à l'idée qu'un compromis politique puisse s'instaurer avec le FIS. On est fin août 97. À partir de là, comme par hasard, c'est peut-être un hasard, vous avez des massacres terribles qui endeuillent la banlieue d'Alger aux portes des casernes, avec des hélicoptères qui survolent les lieux, des blindés qui sécurisent le théâtre de massacre, et une telle émotion internationale, évidemment, que Zerwal en a été fragilisé, qu'il a fini par quitter le pouvoir un an après. Mmh. Donc il y a une stratégie du clan dur pour pourrir la situation et empêcher à nouveau tout compromis politique en Algérie.
Et le GIA, que fait-il dans ce contexte-là? Que fait-il? Que dit-il? Comment réagit-il? Comment s'en sort-il?
Alors, quand vous posez la question du GIA, faut dire le GIA, c'est quoi? Parce que GIA, ça veut dire groupe islamique armé, hein, dans le langage français journalistique à Paris. Mais pour plein d'Algériens, ça veut dire aussi les groupes islamiques de l'armée. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est il y a une époque. Bon, il y a bien évidemment au moment de l'interruption du processus électoral, des gens en Algérie qui prennent les armes, qui prennent le maquis et qui se révoltent contre le régime et qui tuent plein de gens. Et ce sont des criminels, il y a aucun problème là-dessus. En revanche, il y a de la part des services secrets algériens une stratégie normale que nous, les Français, avons menée aussi à notre époque, ce qui consiste à infiltrer ces groupes hostiles pour placer dedans des officiers des services qui peuvent au minimum renseigner sur ce qu'ils font, voire on peut les éliminer de l'intérieur, etc. On fait de l'infiltration, c'est normal. Et les services algériens dans ces années-là ont été tellement bons dans l'infiltration de certains de ces groupes qu'ils ont réussi à un moment donné, fin 94, à favoriser l'arrivée à la tête du GIA d'un type qu'ils contrôlaient, qui était un certain Jamel Zitouni, qui était un petit islamiste de la banlieue d'Alger, avec qui ils étaient en contact, qu'ils épaulaient, qu'ils aidaient en termes de matériel, et ils ont décrété que c'était lui le chef du GIA. Donc il faut savoir qu'entre 1994 et 1996, bon, c'est juste avant Bentala, mais la tête du GIA est, d'après les enquêtes qu'on a menées, dirigée par le clan dur de l'armée, la sécurité militaire, dans le plus grand secret évidemment, ce qui veut dire que les communiqués du GIA sont parfois authentiques, parfois faux, il faut quand même le savoir. Donc le GIA, c'est quoi? Le GIA, c'est en tout cas des types armés, barbus, qui investissent le quartier de Bentala la nuit, en toute impunité, pendant des mois, pendant des années, qui coupent des têtes et il ne se passe jamais rien. C'est juste invraisemblable, c'est pas possible. L'État algérien n'était pas dans un tel état de faillite à l'époque, c'est pas vrai. Moi, j'ai grandi à Alger, je vois où sont les casernes, je sais quel matériel ils avaient acquis, notamment de la part des Français, parce qu'on leur avait vendu en 95 des hélicoptères de vision nocturne. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai que des barbus pouvaient terroriser un village pendant 6 mois en toute impunité. Donc, c'est des groupes qu'on a laissé agir pour terroriser une population.
Et le fils, ce... qu'est-ce qu'il peut faire? Alors le fils, c'est donc la représentation politique, hein, pour le coup.
Absolument. Le Front islamique du salut qui a vu l'élection annulée en 92. Bon, ils ont été raflés pendant des mois, envoyés dans des camps dans le sud. Quelques-uns ont pris les armes, ont créé ce qu'on a appelé l'armée islamique du salut, qui a combattu dans les montagnes algériennes le régime. Je crois que le fils, il est un peu hors-jeu, si vous voulez, dans ces périodes-là. Et entre la sécurité militaire, les GIA, le fils, il est pourchassé, interdit, poursuivi, quoi.
Qu'est-ce qui reste en Algérie aujourd'hui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, de ces années-là? C'est hier, hein, dans l'histoire d'un pays. C'est vraiment hier, quoi. Quelle trace a laissé dans les têtes?
Je pense qu'un tel niveau de violence, si vous voulez, pose un problème. Encore une fois, 20 000 disparus, 100 à 200 000 morts, 1 million de déplacés. Bon, je veux dire, faut imaginer les générations, par exemple, les enfants qui ont assisté au massacre de Bentala, les centaines d'enfants qui ont vu des gens massacrés, enfermés dans des fours, etc. Comment ils vont vivre dans l'Algérie de demain, ces gens-là, quand ils vont avoir 15 ans, 20 ans, maintenant ils ont peut-être 30 ans? Comment voulez-vous qu'ils survivent dans un système où l'État non seulement n'a pas protégé sa population, ce qui est quand même le rôle fondamental de l'État au minimum, c'est de protéger ses citoyens, et en plus dans lequel l'État a menti et a intoxiqué sur qui a fait quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas nommé ces tueurs, on les recroise dans la rue quelques années après, parce qu'en plus, on a voté une loi qui leur donne l'impunité. Mais comment peut-on voter des lois pareilles, et comment veut-on penser que les Algériens peuvent vivre tranquillement aujourd'hui dans la paix, alors qu'ils recroisent leurs bourreaux d'hier dans la rue en toute impunité? C'est impensable.
Ce sont des feux mal éteints, porteurs de danger?
Évidemment, pour moi, Bentala, mais au-delà de ça, la sale guerre algérienne, c'est un échec majeur de notre démocratie, de notre système de presse, un échec majeur. C'est un crime d'une gravité exceptionnelle qui n'a pas été élucidé, sur lequel on fait encore actuellement ce que moi j'appelle du négationnisme.
En tout cas, si on ne va pas en faire, je peux que conseiller à nos lecteurs de se plonger dans cette somme. Hein, votre livre est un gros livre de 600 pages. France-Algérie, crime et mensonges d'État, écrit par vous-même, Jean-Baptiste Rivoire, avec Lounis Aghoun. Merci infiniment d'être venu. Merci
à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le massacre de Bentala, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous nous retrouverons autour des chats de veau. Voilà, c'est ça.